Le monde de la Grèce était un pur combat. Combat contre l'Asie, combat dans la Grèce elle-même. Lutte des Ioniens et des Doriens, de Sparte et d'Athènes. La Grèce a deux cités, c'est-à-dire que la cité y est incomplète. La grande Rome enferme dans ses murs les deux cités, les deux races, étrusques et latines, sacerdotales et héroïques, orientales et occidentales, patriciennes et plébéiennes. La propriété foncière et la propriété mobilière, la stabilité et le progrès, la nature et la liberté. La famille reparaît ici dans la cité. Le foyer domestique des Pélasges est ramené sur l'autel de Vesta. Le dualisme de la Perse est reproduit, mais il a passé des dieux aux hommes, de l'abstraction à la réalité, de la métaphysique religieuse au droit civil. La présence de deux races dans les mêmes murs, l'opposition de leurs intérêts, le besoin d'équilibre, commence cette guerre légale par devant le juge, dont la forme est fait l'objet de la jurisprudence. L'héroïsme guerrier de la Perse et de la Grèce, cette jeune ardeur de combat devient plus sage ici, et consent à n'employer dans la cité d'autre arme que la parole. Dans ce duel verbal, comme dans la guerre des conquêtes, les adversaires sont éternellement le possesseur et le demandeur. Le premier a pour lui l'autorité, l'ancienneté, la loi écrite. Ses pieds posent fortement sur la terre dans laquelle il est enraciné. L'autre, athlète mobile, a pour arme l'interprétation. Le temps est de son parti. Et le juge, emporté par le temps, n'aura d'autre travail que de sauver la lettre immobile en y introduisant l'esprit toujours nouveau. Ainsi, la liberté ruse avec la fatalité. Ainsi, le droit va s'humanisant par l'équivoque. Rome n'est point un monde exclusif. À l'intérieur, la cité s'ouvre peu à peu aux plébéiens. À l'extérieur, au Latium, à l'Italie, à toutes les provinces. De même que la famille romaine se recrute par l'adoption, s'étend et se divise par l'émancipation, la cité adopte des citoyens, puis des villes entières sous le nom de municipes, tandis qu'elle se reproduit à l'infini dans ses colonies. Sur chaque conquête, elle dépose une jeune Rome qui représente sa métropole. Ainsi, tandis que la cité grecque, colonisant mais n'adoptant jamais, se dispersait et devait à la longue mourir d'épuisement, Rome gagne et perd avec la régularité d'un organisme vivant. Elle aspire, si je l'ose dire, les peuples latins, sabins, étrusques et, devenus romains, elle les respire au dehors dans ses colonies. Et elle assimila ainsi tout le monde, la barbarie occidentale, Espagne, Bretagne et Gaule, la civilisation orientale, Grèce, Égypte, Asie, Syrie, tout y passa à son tour. Le monde sémitique résistait. Carthage fut anéantie, la Judée dispersée. Tout le reste fut élevé malgré soi à l'uniformité de langue, de droit, de religion. Tous devinrent, bon gré mal gré, Italiens, Romains, sénateurs, empereurs. Après les Césars, Romains et Patriciens, les Flaviens ne sont plus qu'Italiens, les Antonins, Espagnols ou Gaulois. Puis, l'Orient réclamant ses droits contre l'Occident, paraissent les empereurs africains et syriens, Septime, Caracalla, Héliogabale, Alexandre Sévère. Enfin, les provinciaux du centre, les durs paysans de l'Illyrie, les Auréliens et les Probus, les barbares même, l'Arabe Philippe et le Goth Maximin. Afin que l'Empire soit envahi, la pourpre impériale a été déjà conquise par toutes les nations.